19. Félonie. Ils mourront tous, ces félons scélérats. Berthollet de Laon. Lorsque les combattants se rendirent à l'évidence et finirent par admettre qu'ils avaient été transportés au sommet du château, ils se replièrent dans la vieille librairie. Bien que leur position se trouvât encore voilée de brouillard, ils craignaient d'être découverts. Compromis dans cette aventure qu'ils désapprouvaient et dont ils n'avaient pas réellement cru qu'elle pût les mener à l'intérieur de la place forte, Nem parut avoir perdu sa langue. Le sire de Vaumacel affichait un air presque aussi défait, car désormais il se retrouvait au pied du mur. Il lui fallait retourner ses armes contre la duchesse. En revanche, Kell était ravie. Bien qu'il n'eût pas réussi à mettre les pieds dans le castel d'Ingremance quelques jours auparavant, ses vagabondages sur les toits lui laissaient un souvenir assez précis de l'ordonnance générale du château et lui donnaient quelque idée sur le chemin à suivre pour franchir le bras de la rivière. « Depuis notre position, il existe deux moyens pour rejoindre le castel du Fêtre, » expliqua-t-il. « Soit on passe par les arches qui rattachent les tours, ce n'est pas gardé mais c'est plutôt dangereux. Soit on descend jusqu'au niveau des chemins de ronde. Il y a le pont-levis qui relie les deux castels. Ce sera moins acrobatique, mais il faudra s'occuper des gardes. » La deuxième option fut aussitôt retenue. Les elfes eux-mêmes se méfiaient des voix de mont en l'air du page, et le sire de Vaumacel, qui avait effectué lors de son précédent séjour une ronde sur les remparts de verre, marcherait au plus court vers les appartements nobles sitôt qu'il serait descendu au niveau des courtines. Qu'elle ne reprendrait les devants qu'une fois dans l'hôtel seigneurel, puisqu'il jurait ses grands dieux qu'il mènerait la compagnie tout droit à la chambre de la duchesse. Restait à lancer la diversion du chevalier au coucou. En retournant sur l'escalier extérieur, Sir Hamlin se mit à murmurer des paroles d'encouragement à sa pie, toujours perchée sur son épaule. Comment va-t-elle retrouver Sir Tigernet dans ce brouillard? Sans qui qu'elle? Tout simplement en poussant son cri moqueur, répondit l'aventureux sur un ton plaisant. L'oiseau commença par lâcher quelques jacasseries de protestation, comme s'il semblait peu disposé à faire ce qu'on attendait de lui. Puis, quittant la spalière de son maître, il vint se jucher sur la main courante de l'escalier en battant une ou deux fois de la queue. Il lança alors à plein gosier une criaillerie qui sonnait presque comme « Qui est là? Qui est là ?» Le sire de Vaumacel et ses servants sursautèrent, effarés par un tel vacarme. Les deux oiseleurs, quant à eux, conservèrent tout leur flegme. Quelle importance la garnison accorderait-elle au jacassement de gros passereaux? À peine la pie s'était-elle tue, remontait de l'abîme le cri rauque d'un jet et le roucouli rythmé d'un coucou. La jacasse se dandina et inclina la tête avec un air de concentration comique. Elle lança deux nouveaux cris, plus forts encore, à crever le tympan de ses voisins. Une autre réponse remonta des profondeurs de la vallée. Alors, sans marquer d'hésitation, l'oiseau se laissa tomber dans le vide en entr'ouvrant les ailes. En un instant, son vol plané s'était englouti dans la brume. « Voilà, le vin est tiré », commenta nonchalamment Sir Hamlin. Craignant que l'atmosphère ne s'éclaircît, les compagnons entreprirent de descendre sans attendre. Ils jugeaient préférable d'avoir atteint le chemin de ronde quand le chevalier au coucou détournerait l'attention. Malgré la brise, qui commençait à entraîner de grands lambeaux de brouillard, les intrus demeuraient peu repérables comme ils se faufilaient dans l'escalier extérieur. Au terme d'une courbe volée de marches, ils accédèrent à un nouveau porche vers l'intérieur de la tour. Il fallut de rechef forcer une serrure, plus grippée par la rouille que par un tour de clé. Les étages que découvrirent alors les intrus s'avérèrent aussi déserts et décrépits que ceux qu'ils venaient de quitter. Ils leur parurent également des plus singuliers. Les compagnons s'introduisirent dans une chambre ronde où de grands lits seigneuriaux occupaient les quatre points cardinaux. Sous le double voilage d'étoiles d'araignée et des tentures mitées, on devinait encore confusément des broderies. Elles assignaient séparément à chaque couche les symboles astrologiques des quatre éléments. Les appartements du mage, s'engouait Kel. J'avais essayé de les atteindre la dernière fois, mais on m'en avait empêché.
Pourquoi avait-il besoin de tant de lits ?
Grommela Nem.
C'est un dortoir ? Il dirigeait une académie ?
C'est peut-être une mesure de prudence, risqua le chevalier au pis. Afin de se protéger, le magicien avait eu la prévoyance de s'endormir chaque nuit sous une configuration différente. Un colimaçon presque dérobé, creusé dans l'épaisseur de la muraille, les mena à un étage plus bas dans une nouvelle salle encore plus déroutante. Une foule figée, drapée de poussière et d'arentelle, semblait attendre les intrus dans un mutisme menaçant. Nombre de ces silhouettes étaient d'une taille impressionnante. Certaines paraissaient presque géantes. Des membres rompus jonchaient çà et là le sol. Après un instant de sidération, les compagnons comprirent qu'ils venaient de déboucher dans un atelier abandonné. Les prélats, seigneurs et chevaliers massifs qui les jaugeaient de leurs prunelles aveugles n'étaient que des statues, dont certaines ne se trouvaient que partiellement dégagées de leurs gangues de pierre. Il fallut aux cinq indésirables se faufiler au milieu de l'assemblée marmoréenne pour gagner deux accès à l'autre bout de la salle. Le plus visible, un grand portail à double battant, dont le linteau était également sculpté, s'avéra solidement fermé. Une porte basse, presque dissimulée derrière des blocs à peine équarris, se révéla tout aussi close. Mais en briser la serrure serait un peu moins bruyant que d'enfoncer d'épais vantaux. Muni d'une hache, Nem fut désigné pour ouvrir la voie. Il dut frapper à cinq ou six reprises avant de rompre le pêne, chaque coup résonnant de façon caverneuse sous la voûte de l'atelier. Derrière lui, les chevaliers se tenaient prêts, l'épée à la main. Une si retentissante effraction courait le risque d'attirer l'attention. Toutefois, quand l'écuyer finit par forcer le passage, personne ne les attendait de l'autre côté. La porte débouchait pourtant sur la courtine. Couverte par une galerie de bois, elle ressemblait d'ailleurs moins à un chemin de ronde qu'à un couloir, où les créneaux ouvraient régulièrement leurs ajours. La brume y stagnait moins épaisse qu'aux étages supérieurs, et permettait d'y voir à une vingtaine de pas avant de noyer les perspectives. Nulle sentinelle en vue. Les aventureux plaisantèrent Louis de la garde. Nem, qui prit bizarrement la mouche, se sentit obligé de justifier la négligence des hommes d'armes.
« Il y a souvent des travaux au château. Les sergents auront pris ses coups pour une réparation. »
Les elfes le taquinèrent, en lui reprochant de ne pas s'être déguisé en couvreur ou en ramoneur. La chance insolente dont ils bénéficiaient accentuait leur humeur badine, comme s'ils préparaient une momerie plutôt qu'une action meurtrière. Ils se casquèrent néanmoins, puis avancèrent à pas de loup, bouclier dans le dos et lame au poing. Au bout d'une dizaine de pas, le chevalier Auget fit signe de s'arrêter et d'écouter. Dans le brouillard, le marmonnement d'un bavardage sans entrain leur parvint du voisinage, malgré le grondement du flot remonté du bas des remparts. Plus lointain, s'élevait également l'écho d'un chant, entonné sous les murs, dans la vallée. La brume paraît cette poignante mélodie d'un mystère presque surnaturel. Le sire de Vaumacel et ses servants n'en comprirent pas la teneur, mais les deux aventureux sous le mésaille relevé échangèrent des signes d'intelligence.
« Est-ce sire Tigernet qui chante ?»
demanda à mi-voix le chevalier aux épines. Les oiseleurs le confirmèrent. Il va lancer son défi, murmura Ameline.
Cela n'a pas un ton très guerrier,
grommela Nem. La suite sonnera d'autant plus violente.
C'est plutôt malin de ne point commencer par le blâme,
renchérit le chevalier Auget. Voyant que le sire de Vaumacel et ses gens ne saisissaient pas le fond de leurs pensées, le chevalier Opi précisa « Cette triste ritournelle pleure la complainte du prince Ossirian, mort au bord de la Listrelle. Il fut tué par l'archonte nécromant. » La douceur de l'élégie sert d'exorde aux défis lancés aux dolents. Charmés par la mélodie, nos ennemis seront d'autant plus piqués qu'elles leur disent leurs faits. En tendant l'oreille, les assaillants se rendirent compte que la diversion commençait à porter ses fruits. La conversation qui leur revenait par bribes portait sur la mystérieuse chanson qui montait de la vallée. Quelques voix masculines échangeaient des questions sans réponse à ce sujet. Bizarrement, elles semblaient provenir de l'extérieur de la muraille, au-dessus du gouffre où coulait la rivière. Ces hommes occupaient donc une bretèche, ou le passage reliant les deux castels. Ayant repris leur progression en silence, les compagnons entrevirent par les créneaux une structure vague se dessiner dans le brouillard. Ils devinèrent les parallèles sombres du tablier et des flèches du pont-levis jetées entre les deux remparts. Peu après, le chemin de ronde s'engageait sous un porche bas, ouvert dans la muraille d'une des deux tours qui défendait le pont mobile. Les chevaliers y pénétrèrent en tête, guidés par le sire de Vaumacel. Ils débouchèrent dans un petit poste de garde qui aurait dû être occupé, car il contrôlait le contrepoids permettant de relever le tablier. Par chance, la pièce était déserte. Probablement depuis peu, à considérer le pichet et les dés en os abandonnés sur une table. Dans le mur opposé, une porte ouvrait sur le jour brumeux. Les voix de quelques causeurs s'y élevaient désormais très proches. Certains plaisantaient sur le jongleur qui s'époumonait de l'autre côté de la rivière. Dans un ensemble parfaitement coordonné, les aventureux gagnèrent de vitesse le chevalier aux épines et le dépassèrent sur les flancs, juste avant qu'il ne franchît le seuil de la porterie. Leur apparition surprit deux gardes, qui s'étaient avancés sur le tablier du pont pour bavarder avec un troisième, resté sous le porche jumeau du côté du faître. L'étonnement qui les saisit leur fut fatal. Les deux oiseleurs tombèrent sur eux en un instant, avec une prestesse qui semblait plus obligeante que menaçante. Le chevalier Opi se contenta de repousser l'un des sergents, qui bascula dans le vide, et ne put pousser qu'un hurlement assez bref avant d'être englouti par la rivière. Son binôme effaré ouvrit la bouche pour donner l'alarme. Le chevalier Auger la lui emplit de son épée et lui cloua fort proprement son cri au fond de la gorge. Mais le troisième homme d'armes, resté à son poste dans la poterne du faître, eut le temps de réagir. Tout en appelant aux armes, il libéra le treuil de la herse. Arrachant l'épée du crâne de sa victime, Sir Cadelin traversa le pont-levis avec une vivacité féline et roula sous les dents de fer forgé juste avant qu'elle ne mordisse l'escarpe. Encore au sol, il trancha un jarret du sergent d'un moulinet presque négligent. Le malheureux tomba sur un genou, alors que l'aventureux se relevait. Cadelin imposa le silence au portier en lui transperçant le cou, puis rouvrit tranquillement la herse.
« Nous voici chus en félonie, » grommela Nem.
Le sire de Vaumacel fit mine de ne pas l'entendre. Sous le grand aume au cimier de ronces, son expression était désormais indéchiffrable. Avec le chevalier Opi, il s'inclina pour passer sous la grille avant qu'elle ne fût complètement relevée. L'écuyer suivit, de mauvaise grâce mais sans traîner, conscient que la rapidité épargnerait sans doute quelques vies dans les deux camps. Seul Kell s'attarda un peu. Il s'arrêta un instant au-dessus du sergent qui avait été embroché par la bouche. C'était l'un des hommes d'armes qui, non content de l'avoir refoulé quelques jours plus tôt, s'était moqué de son impertinence. Le page le regarda mourir avec une moue revancharde, avant de se précipiter sur les talons de ses maîtres. Eddan de Vaumacel avait repris la tête du groupe. Il entraîna ses affidés dans un étroit coupe-gorge qui s'engouffrait entre la tour Clicorne et l'un des côtés de l'hôtel seigneurel. Faute d'entrée directe dans le logis noble depuis les remparts, Il fallait rejoindre la cour du castel du Fêtre avant d'accéder aux galeries qui conduisaient aux étages. D'autres qui-vives étaient aboyés sur le chemin de ronde, mais les aventureux avaient frappé assez vite pour retarder l'identification du poste attaqué. Il y avait du monde dans la cour du Fêtre. Par chance pour les assaillants, il s'agissait de valets plutôt que de gens de guerre. Palefreniers, marmitons, chambrières. Et la brise étant arrêtée par les remparts, la brume stagnait encore assez épaisse au niveau de la chaussée. Par rouerie, qu'elle joignit sa voix aux appels aux armes qui couraient le chemin de ronde, piaillant que la tour Malestrue était assaillie. Ajoutant de la confusion à la confusion, cela troubla assez les serviteurs pour qu'ils n'eussent point la présence d'esprit de s'interposer. Déjà, la petite bande remontait hardiment l'escalier extérieur de l'hôtel seigneurel. Le sergent de faction à l'entrée comprit trop tard qu'il était attaqué. Il s'effondra sans vie, percé de coups d'épée. Tirant le corps de leur victime à l'intérieur, les assaillants s'engouffrèrent dans le logis noble et condamnèrent la porte derrière eux avec les barres destinées à la renforcer en cas de siège. Il était temps. Des cris d'effroi fusaient dans la cour, clamant que l'hôtel seigneurel était envahi. Guidés par Kell, qui courait imprudemment en tête, les chevaliers gagnèrent l'escalier double. Le page se garda bien de les entraîner dans le petit colimaçon gardé par un mascaron bifron et les fit grimper quatre à quatre le grand escalier spiralé. Ils bousculèrent au passage un échanson. Une servante prit la fuite vers la grande salle en poussant des cris perçants. Mais Kell ne s'arrêta point à ce palier et fila vers les étages supérieurs. Il finit par déboucher sur une belle galerie de pierre, plus haute que le chemin de ronde, dont les arcades ouvraient sur les pures brumeuses de toits en poivrière. Reconnaissant les lieux, le chevalier de Vaumacel reprit la tête. Des profondeurs de la cour remontait une cacophonie de cris furieux. Des coups violents ébranlèrent la porte de l'hôtel seigneurel.
« C'était une diversion !»
clama la voix de Dame de Maubrenas.
« à moi, pour la duchesse !»
Quelque part, une cloche se mit à sonner le tocsin. En divers endroits du rempart se propageaient appels aux armes et cris de ralliement. Mais les intrus avaient pris de vitesse les défenseurs et touchaient au but. Le sire de Vaumacel reconnut au bout de la galerie un porche de belle dimension dans le mur de la tour Irèse. Il le désigna de la pointe de l'épée. Au même moment, dans la cour, retentit la voix furieuse de Méléagant de Bromel.
« Laissez donc cette huit ! Par l'Estorbel ! Avec moi !»
Le temps de monter aux étages, le seigneur de Verre arriverait sans doute trop tard. Le sire de Vaumacel et le chevalier Opie se jetèrent ensemble contre le battant de la porte des appartements de la duchesse. Elle n'était pas barrée, elle s'ouvrit à la volée. Les assaillants firent irruption dans la vaste antichambre du Vespellion, toute lambrissée par les armoires ouvragées des garde-robes de la dame. Au fond, toutefois, le seuil de la chambre était défendu. Un chevalier en grand harnois s'interposait, l'épée au poing, couvert de l'écu. En étendant les bras, Edan de Vaumacel tempéra l'impétuosité des deux aventureux.
« Nous connaissons ce chevalier, » dit-il. « C'est un ami. »
De fait, le blason peint sur son bouclier, d'azur au vol d'argent, leur était familier et n'avait rien à voir avec l'ordre des Dolans.
« Un ami ?»
releva Kohir de Thèves sur un ton frémissant de colère.
« J'ai eu la naïveté de le croire. »« Vous ne vous leurriez point, » répondit le chevalier aux épines. « J'ai toujours pour vous autant d'estime que de sympathie. » « Tu m'insultes, Vaumacel ? Dès que j'ai entendu le chant de l'oiseleur dehors, j'ai compris le dessein des aventureux. J'ai accouru ici pour leur défendre l'accès de ces appartements. Mais quoi ? Te voici avec eux. Tu es donc mon ennemi, Edan. Tu es même mon ennemi juré. J'ai pris ta place au procès de la duchesse. J'ai tout perdu à cause de toi. Je t'ai pardonné et tu m'as trompé sans scrupule. » On m'avait pourtant assez instruit de ta perfidie. Prononce encore ce nom d'ami
et je te le ferai rentrer dans la gorge.
Nous perdons du temps.
Allons, de l'avant !»
pressa le chevalier au jet. Il se mit en garde, prêt à frapper le sire de Thèves. Mais le sire de Vaumacel interposa son épée sans brusquerie.
« Un mot encore, » dit-il. « Sire Cowir a trop de jugement pour ignorer ce qu'il défend.
J'ai toujours su ce que je défendais, contrairement à toi !»
répliqua le chevalier de l'autel.
Sitôt que nous sommes arrivés à Vert, vous avez soupçonné la vérité. Croyez-vous encore servir la duchesse? Soutenir une supercherie est le plus sûr moyen d'attenter à sa mémoire.
Honni sois-tu! Traiter de supercherie un authentique miracle! Je t'interdis de le profaner!
Vous vous méprenez sur mes desseins, Sir Cowir. Ma conduite reste gouvernée par l'honneur.
Dans ta bouche, ce mot rime avec menteur.
Alors que le chevalier Auget rongeait son frein devant cette querelle, le chevalier Opi en fut distrait par quelque chose d'autre. Il se tourna vers l'une des grandes penderies dont les battants aux pentures ramifiées étaient mal clos. De la tranche du bouclier, il ouvrit un peu plus l'une des portes et eut un mouvement de recul. Par l'entrebâillement, au milieu d'un nid de brocart et d'étoffes somptueuses, il venait de deviner le bec d'acier d'un aume et l'éclat mat de deux gantelets croisés sur la garde d'une épée. Une armure en pied semblait monter la garde dans ce réduit, qui prit l'allure sinistre d'une bière redressée.
« Je vous fais serment, Sir Cowir, que je ne suis pas revenu pour ce que vous croyez, »
insistait le chevalier aux épines.
« Je ne crois plus qu'une chose. » Ce que me dicte mon devoir,
hélas, au nom d'une conviction commune, vous allez me contraindre à vous attaquer.
Une conviction commune? Nous n'avons rien en commun.
Resté en arrière-garde sur la galerie, Kell s'exclama.
J'entends du bruit dans la tour de l'Estorbel. Ils sont en train de monter.
Assez parlé, il faut en finir,
trancha le chevalier Auget. Et au moment où il lâchait ces mots, il se fendit d'une estocade brutale contre le sire de Thèves. Quoiqu'il se tînt sur la défensive, le chevalier de l'autel fut malgré tout surpris et le coup frôlant l'orle du bouclier manqua percer le gorgerin. Par réflexe, il sabra le ventail de l'aventureux qui se déroba tout en souplesse avant de revenir à l'assaut. Avec un soupçon de retard, le sire de Vaumacel chargea également, écu en avant, cherchant à bousculer plutôt qu'à ferrir son adversaire. Nem et Hamelin crièrent alors une mise en garde, mais les deux assaillants, leur champ de vision borné par les lumières du home, ne se rendirent pas compte du danger. Au moment où ils engageaient le chevalier de Thèves, les portes de l'armoire, repérées par le chevalier Opi, s'ouvrirent à la volée et un nouveau combattant en jaillit comme un diable hors de sa boîte. Sir Hamelin, qui avait éventé cette menace, l'accueillit à la pointe de l'épée. Son estocade glissa entre la cuirasse et la braconnière de l'embusqué et s'enfonça de 3 bons pouces. Cela n'eut aucun effet. Le nouveau venu repoussa le chevalier Opi d'un coup d'épaule. En arrachant l'arme de la plaie, le choc répandit sur le carrelage une giclée de sang malodorant. Dans le même élan, l'inconnu asséna un terrible coup de taille sur la dossière d'Edan et le repoussa d'une ruée de boucliers vers le chevalier Auget. Percuté, celui-ci parvint à garder son équilibre, mais son assaut contre Cowir de Thèves se perdit. Tous scrupules oubliés, Nem se jeta alors dans la mêlée pour porter secours à son maître. Un engagement aussi confus que féroce se noua alors. L'antichambre des appartements de la duchesse était assez spacieuse, mais elle parut exiguë pour contenir ce déchaînement de violence. Les lames, détournées par les écus ou les harnois, sabraient les boiseries, fendaient les couvercles des coffres ou les vantaux des hautes armoires. Par ces brèches, se répandaient à flots des robes aux étoffes chatoyantes. Ces embarras contrebalançaient en partie l'avantage du nombre dont disposaient les assaillants. L'entrée de la chambre était fermement tenue par Cowir de Thèves et le nouveau venu. Celui-ci portait sur son bouclier et sa cotte d'armes des couleurs fort sombres, de sable aux 5 pétales de douce amère.
« Gare à ce serpent ! Un maudit dolent !»
cracha le chevalier Auget. Et tandis que le sire de Vaumacel, qui avait retrouvé l'équilibre, ferraillait écu contre écu avec le chevalier de Thèves, les deux aventureux concentrèrent leurs assauts sur le combattant à la livrée funèbre. Plus leste que lui, ils trompèrent sa garde. Certains de leurs coups furent arrêtés par l'armure, mais à trois reprises au moins, ils l'étrièrent, à la cuisse, au torse, dans la saignée du bras. En extrayant le fer, ils soutiraient un peu de sang. Des gouttes noirâtres à l'odeur âcre. Les arômes balsamiques ne suffisaient pas à couvrir un relent fétide.
« Rendez-vous, Sir Fitzurse !» cria Edan. « Vous êtes gravement touché !»
Le chevalier de l'ordre des Dolans fit la sourde oreille. Il demeurait insensible aux blessures essuyées. Il semblait même y puiser un regain de vigueur, et, en s'exposant dangereusement, il parvint à repousser Cadelin, puis à trancher un quartier du bouclier d'Amelin. À chacun de ses assauts, sa lame sifflait avec la force d'un balancier de mangonneau. Le sire de Vaumacel, qui devait mobiliser tous ses efforts contre la volée de coups que lui assénait Cohir de Thèves, était incapable de seconder les deux oiseleurs.
« Nem !» commanda-t-il. « Appuie-les !»
Mais le vieil écuyer, une fois son maître à nouveau en garde, parut rattrapé par l'hésitation ou la réticence. Au même moment, derrière la porte close, furent poussés des ululements terrifiés dans lesquels on peinait à reconnaître la voix d'Almodi. Il ne parvenait pas à couvrir le timbre incroyablement grave qui se mit à entonner un chant sépulcral. Ce cantique lent et sombre communiqua la chair de poule à tous les assaillants.
« Le nécromant, il va nous maléficier !» s'écria le chevalier au pis.
Les deux aventureux redoublèrent alors d'ardeur et réussirent à placer d'autres estocades meurtrières. Et pourtant, ils durent encore reculer devant un adversaire insensible à la douleur.
« À moi ! À moi !»
continuait à clamer Cohir de Thèves malgré son souffle court.
« La duchesse est attaquée !»
Des rugissements lui répondirent, portés à travers le brouillard par l'acoustique caverneuse des murs et des galeries.
« Ils approchent !»
piailla Kell, qui faisait le guet sur le seuil.
« Ils sont à mi-hauteur de l'Estorbel. Ils vont arriver au couloir vers la grande salle !»
Comme pour confirmer ses craintes, certains cris de guerre se mirent à résonner non plus dans la cour ou dans les tours voisines, mais sous les voûtes des étages inférieurs.
« Ils sont dans les murs !»
couina le page avec un fou rire nerveux. Parmi ses voix coléreuses, retentissait toujours celle de Méléagant de Verre et de Dame de Maubrenas. Éclata également le cri de guerre de la maison du Havne. De surprise, le sire de Vaumacel céda un peu de terrain devant Cohir de Thèves et ne bloqua que de justesse un coup de taille.
« Corps de roi !»
lâcha-t-il.
« Fitzurse est en bas !»
Le second gardien du seuil de la duchesse n'était donc point l'ancien soupirant de la suzeraine. Puisqu'il portait les armoiries des Dolans, le combattant était sans doute le mystérieux chevalier Meschevé. Kedan n'avait fait qu'entrevoir de nuit et dont il ne savait rien. Au mépris de toute prudence, encaissant les coups de ses deux adversaires sans émettre un seul son, il continuait à les repousser vers l'entrée de la galerie. Passant sous un puissant moulinet, Cadelin attaqua ses appuis en garde basse et sabra la jonction de la grève et du solret. L'impact enfonça en partie l'acier juste au-dessus du pied, sans ébranler le dolan. Au même moment, le chevalier Opie lâchait son bouclier et lançait en garde haute une méchante estocade, la main gauche poussant sur le pommeau. L'épée s'introduisit sous la spalière et perça sur un ou deux pouces la cuirasse au niveau de la clavicule. Cela n'arrêta pas davantage le chevalier Meschevé. Il s'enfonça davantage sur la lame de Sir Amelin, dont la pointe alla buter sur sa dossière. Ayant ainsi bloqué l'arme de l'aventureux, il lui asséna en retour une riposte fracassante qui déchira sa houppelande et tordit le beau harnois de Sian. L'elfe trébucha en arrière. Ses éperons se prirent dans les plis d'une des robes chues à terre. Il s'effondra sur le dos, laissant son épée fichée dans l'épaule de son adversaire. Le Meschevé retourna son arme, pointe en bas, pour le clouer au sol. Le chevalier Auget interposa son bouclier juste à temps pour couvrir son compagnon, mais il avait dû réagir si vite que sa défense manquait de fermeté. Le coup le déséquilibra à son tour et le mit en mauvaise posture. D'instinct, les vétérans qu'étaient Edan et Nem sentirent la fortune sur le point de tourner. Il fallait frapper vite et fort, sans quoi leur sort serait scellé. Le chevalier de Vaumacel dut se résoudre à un coup aussi dangereux que discutable pour reprendre l'avantage sur le sire de Thèves. Faisant un pas en arrière, il laissa pendre son bouclier pour retourner son épée en l'empoignant des deux mains par la lame. Saisissant aussitôt l'ouverture, son adversaire poussa son avantage de l'écu et de l'épée. Le chevalier aux épines encaissa une poussée assez brutale et un coup qui manqua de fausser la base du haume. Simultanément, il crocheta un genou de Kowir avec la garde de son arme. Il avait visé le côté de la hanche blessée du chevalier de l'autel. Tout en ramenant d'un coup sec son arme vers le haut, il percuta de l'épaule le bouclier et le buste du sire de Thèves. Fauché par cette botte déloyale, le chevalier de l'autel chuta à grand fracas. Au même moment, le vieil écuyer se jetait au secours des aventureux. Saisissant sa hache à plein poing, les deux mains bien écartées sur le manche, il tenta d'abord de bloquer la dextre du mèche-chevet en position basse, en la coinçant entre son poignet et le talon de son arme. Ce fut peine perdue. Quoique toujours embroché, le Dolan réarma son coup avec une force qui manqua de renverser Nem. Le valet d'armes, qui n'avait plus la souplesse de ses 20 ans, faillit avoir la tête fendue par la riposte. Mais son irruption avait permis au chevalier Auget de se reprendre. Il parvint à le protéger du bouclier, non sans ployer. Par malice ou par accident, Cadelin vint peser de tout son poids sur le plat de l'arme fichée dans l'épaule du mèche-chevet. Cela entrava un instant le gardien du seuil, juste assez pour que Nem reprît l'initiative. Poussant un « an » de bûcheron, il cogna le haume du Dolan des deux mains à la volée. Le casque fut arraché dans un tintamarre de marmite renversée. Brutalement démasqué, le chevalier mèche-chevet révéla une figure sinistre. Décoiffé par le choc, ses mèches blondes qui avaient pris un aspect de vieille filasse lui couvraient en partie le visage. Pas assez cependant pour cacher ses joues émaciées, ses orbites caves, le rictus qui serrait des lèvres exsangues sur ses dents. Ses yeux paraissaient vacants d'expression. Autour des iris laiteux, la cornée injectée avait pris des nuances coagulées. Entre son menton et le gorgerin, on entrevoyait, barrant complètement son cou livide, une plaie suturée mais non cicatrisée. Cependant, malgré ses affreux stigmates, le combattant demeurait reconnaissable. Nem, qui s'apprêtait à redoubler son coup, demeura le geste en suspens. La mine effarée. Le sire de Vaumacel en oublia de désarmer Kowir de Thèves, qui commença à se redresser.
« Sainte miséricorde !» lâcha l'écuyer dans un souffle.
« Sire, Ivorin !» s'écria Edan sur un ton incrédule. De fait, le mèche-chevet ressemblait comme un frère au chevalier de Kéan. Mais un frère poitrinaire et flétri, qui n'aurait plus eu que la peau sur les os. À l'énoncé de son nom, il tourna vaguement son regard glauque vers le sire de Vaumacel, parut sur le point de dire quelque chose, mais ne fit que découvrir un peu plus les dents. En même temps, il frappait Nem. Le vieux valet d'armes, abasourdi par cette rencontre, réagit trop tard. Sa parade ne dévia qu'en partie l'assaut, qui, après avoir entaillé le manche de sa hache, perça sa brigandine. D'un coup de pommeau en pleine visière, Edan renvoya Kowir de Thèves au sol avant de charger le mèche-chevet. Mais les aventureux furent plus prompts que lui. Cadelin sabra le visage du Dolan, lui fichant toute la largeur de sa lame en travers de la joue et de l'oreille. Il lui déboîta la mâchoire en extrayant le fer. Hamelin, qui s'était relevé d'un bond, arracha son épée de l'épaule ennemie et l'abattit avec élan, ouvrant ce front livide jusqu'au nez. Une sanie noirâtre s'échappa de l'enfoncement avec un remugle de viande avariée. Le mèche-chevet arma encore une riposte, mais, le bras levé, lâcha son arme pour porter le gantelet à sa tête fracassée. La main sur le front, il parut à peine ébranlé par les coups suivants. Il avait l'attitude d'un homme qui cherche ce qu'il a bien pu oublier. Puis,
Il se désarticula comme un pantin dont le marionnettiste vient de lâcher la croix d'Athel. Le premier mouvement du sire de Vaumacel fut de se précipiter au secours de son écuyer. Celui-ci, toujours conscient, essayait de se relever en grimaçant. L'encoche dans son armure était petite et nette, mais le sang coulait sous la cuirasse, jusque sur sa cuisse, en filets écarlates sur les lamelles de la tassette et en auréole plus sombre dans le tissu de ses chausses.
« Ça va, ça va !»
grommela Nem en acceptant l'aide de son seigneur de mauvaise grâce. Il se remit péniblement sur pied et ramassa sa hache. « Il faut panser cette blessure !» dit Eddan en cherchant son page des yeux. « Pas maintenant, pas le temps !» grogna l'écuyer. Presque malgré eux, ils avaient le regard aimanté par la dépouille décervelée d'Ivorin de Kéan. À présent qu'il gisait, affalé et mutilé, il avait l'air d'un cadavre abandonné depuis une semaine. Même le chevalier de Thèves, que le Haume avait en partie protégé du coup asséné par son adversaire, ne s'était qu'à moitié redressé, adossé à une armoire, et le mésaille relevé considérait avec stupeur le délabrement de son compagnon d'armes.
« J'ignorais tout de cela, »
balbutia-t-il.
« Juste ciel, que lui est-il arrivé ?»
s'émut le sire de Vaumacel.
« Tel est l'effroyable effet qu'a sur les morts la nécromancie royale, »
cracha le chevalier au pis.
« Un chancre qu'il faut détruire avant que la contagion ne soit fatale. »
Moins affecté que les adultes, Kell jeta une œillade plus curieuse qu'épouvantée au reste du chevalier de Kéan. Il en fut vite distrait, car toute autre chose raviva ses alarmes.
« Il faut se dépêcher, » pressa-t-il. « J'entends les défenseurs dans la grande salle. Ils vont atteindre les escaliers. Je me charge de les retenir, »
lança le chevalier au jet. Au moment où l'aventureux s'apprêtait à quitter l'antichambre, le sire de Vaumacel s'interposa vivement entre lui et le chevalier de Thèves. Il soutint le regard bleu de glace de Cadelin, qui avait esquissé un changement de garde.
« Je réponds de Sir Cawir, »
dit fermement Eddan. Sous le ventail, une lueur amusée parcourut les prunelles pâles.
« Comme il vous plaira, »
céda gracieusement l'elfe. Et, abaissant sa lame, il se précipita dans la galerie pour défendre la cage d'escalier. Eddan profita de la stupeur du chevalier de l'autel qui ne parvenait pas à détacher les yeux du cadavre d'Ivorin de Kéan pour lui confisquer son épée et la confier à Nem.
« Vous êtes mon prisonnier, Sir Cawir, »
dit le chevalier aux épines.
« Vous êtes libre de quitter les lieux, pourvu que vous n'agissiez plus contre nous. »« Je ne crois pas m'être rendu, »
protesta le sire de Thèves d'une voix blanche.
« Mais vous me devez la vie, peut-être plus encore, si j'en juge le sort horrible de Sir Ivorin. Cela vaut bien une reddition. »
De son côté, le chevalier Opi n'avait pas perdu de temps. Enjambant les restes du malheureux Meschevet, il venait de repousser la porte des appartements de la duchesse. Bien qu'il fît jour, on aurait pu croire retomber dans la noirceur des Luiselles. Les volets intérieurs des fenêtres étaient clos et voilés par d'épaisses tentures. Seule une bougie et quelques braises au fond de l'âtre jetaient de faibles lueurs, ébauchant à peine les ombres d'un grand mobilier seigneurial. Non loin de l'entrée, une voix basse continuait à psalmodier un cantique lugubre. Plus avant, dans l'obscurité, chevrotaient quelques sanglots. Eddan de Vaumacel se hâta de rejoindre Sir Amelin, qui était entré résolument dans ce mausolée. Les deux preux furent frappés par l'atmosphère étouffante qui épaississait cette pénombre, chargée de parfums entêtants et capiteux. Malgré son mésaille relevé, le sire de Vaumacel ouvrit la bouche comme s'il manquait d'air. Ses lourdes émanations d'aloès, de myrrhe et d'oliban le ramenèrent brutalement à la nuit où, après avoir renouvelé ses protestations de loyauté, il avait embrassé Odéarde de Maginois. Lorsque les assaillants eurent gagné le centre de la pièce, le chantre funèbre interrompit ses versets. Les chevaliers pouvaient deviner sa présence quelques pas devant eux, à contre-jour, sur le brasillement de la cheminée. C'était une silhouette obscure, plutôt fluette, noyée dans les plis d'une robe de religieux. Le capus qui la coiffait semblait presque plus large que ses frêles épaules. Ni son visage ni ses mains n'étaient visibles. Une fois face à deux combattants en grand harnois, cette ombre parut encore plus chétive.
« Louez le Dieu, mes sœurs !»
énonça alors l'officiant ténébreux.
« Louez le Dieu, car nos persécuteurs sont arrivés !»
Il s'exprimait avec la voix douce d'un tout jeune homme, très différente du timbre qu'il avait eu en chantant. Sa diction portait toutefois si précise et si pénétrante qu'elle semblait saturer l'obscurité. Edan reconnut aussitôt l'élocution du frère Solacien.
« Rendez grâce, louez le Dieu !»
poursuivait avec ferveur le Dessicatorien.
« Voici le signe de son élection. En nous envoyant ses impies, il nous accorde la couronne du martyr. »
On ne pouvait pas mieux dire, approuva le chevalier au pied, et d'un seul coup d'épée, il décapita le prêtre. La tête encore enveloppée de son capuchon rebondit sur une longue table renversant un peu d'argenterie avant de rouler au sol. Le corps demeura roidement debout un instant interminable, crachant par jets une fontaine de sang vers le plafond à caissons. Puis tomba à genoux avant de s'effondrer de côté. Ses mains pâles sorties de leurs manches se tendirent spasmodiquement vers les pieds de leur bourreau, avant de s'immobiliser paume contre le sol.